With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission où on va vous résumer tout ce qui se passe dans le monde de la technologie, d'internet et des gadgets. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde de la technologie, c'est un petit peu un sujet, c'est-à-dire Libra et Calibra et Facebook, cette crypto-monnaie, entre guillemets, j'utilise toujours des guillemets quand je dis ça, de Facebook. Vous allez voir que c'est un sujet complexe et sur lequel vous avez certainement de nombreuses questions. J'espère qu'on va réussir à répondre à la plupart d'entre elles. Je suis Patrick Béja et j'ai le grand plaisir de recevoir pour m'aider à répondre donc à toutes ces questions deux experts du sujet. On va commencer par Uriel Ohayon qui est avec nous aujourd'hui. Je vais peut-être te laisser te présenter tout seul comme un grand, Uriel.
Très bien, on peut faire ça. Déjà, merci pour l'invitation. Moi, je dirige une société qui s'appelle Kaizen. On produit un porte-monnaie pour les assets crypto, Bitcoin, Ethereum et bientôt d'autres, qui s'appelle Zengo, qu'on a lancé il n'y a pas longtemps. Et voilà, j'ai fait pas mal de choses dans la technologie. J'avais lancé TechCrunch en France, cofondé Isaï, qui est un fonds d'investissement, et d'autres startups. Et aujourd'hui, 100% dans la crypto.
Super, tu vas nous aider à y voir plus clair. J'imagine que vous étudiez déjà la possibilité d'avoir des Libra dans votre portefeuille Zengo. Je suis sûr donc qu'on va pouvoir débattre de tout ça. Et de l'autre côté de moi, donc à ma gauche et à ma droite, ou à ma droite et à ma gauche, Fabrice Croiseau se joint à nous. Comment ça va, Fabrice ?
Ça va très bien, merci Patrick pour l'invitation, bonjour à tous et bonjour Auriel aussi. Oui, donc je vais me présenter aussi un peu comme...
Vas-y, oui, même traitement.
Voilà, même traitement. Donc moi je suis Fabrice Croiseau, je dirige une société qui fait du développement logiciel spécifique, qui est localisée à Luxembourg, environ 140 personnes, avec très impliquées dans le monde blockchain et dans le monde crypto, aussi bien dans le secteur financier majoritairement, mais pas que, sur d'autres projets qui sont liés au Square ou à d'autres activités que purement la finance.
Super, merci à toi aussi d'être là avec nous. Donc je suis bien entouré, je pense qu'on va pouvoir couvrir tout ça correctement. Avant de se lancer, évidemment, j'aimerais remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon, qui n'acceptent pas encore les crypto-monnaies, mais peut-être qu'avec Libra, ça changera d'ici quelques années. Merci aujourd'hui très spécifiquement à Julien Suarez, Nico Réagi, Superbog, Patrice Pernet, Antokios Héraclès, Cléon, Bobby Riot et Daniel Jean-Paul Steph. Merci à vous tous et bien sûr à tous ceux qui soutiennent l'émission. Vous le savez, c'est le moyen de permettre à l'émission d'exister. C'est sur patreon.com/rdvtech. On va donc parler de Libra, de Calibra, de Facebook, de la Libra Foundation, c'est comme ça qu'elle s'appelle. On parlera un petit peu ensuite de la Microsoft Surface, du Raspberry Pi 4 que certains d'entre vous attendent avec grande impatience, de décisions de la Cour suprême aux États-Unis qui sont assez intéressantes et d'autres petites choses. Mais donc on commence comme promis avec Libra, cette annonce de Facebook pour ceux qui sont restés dans une cave pendant les 10 derniers jours. C'est la crypto-monnaie qui a été annoncée par Facebook. Je vous propose que pour couvrir le sujet, j'essaye de faire un petit résumé de l'essentiel de ce qu'il faut retenir en 2-3 minutes. Et puis après ça, on en parlera avec Fabrice et Uriel, qui ne manqueront pas de me dire là où je me suis planté et où j'ai dit des bêtises, j'espère. N'hésitez pas à me corriger. Mais donc, en gros, pour moi, d'une part, la chose à retenir et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est que Libra, donc cette crypto-monnaie annoncée par Facebook, est séparée de Facebook. Ça n'est pas la crypto-monnaie de Facebook qui est une sorte, qui en fait une sorte d'État souverain, comme certains le craignent ou le comprennent. Et je crois que ça peut mener à beaucoup d'erreurs. Parce que, donc ça, c'est vraiment la chose à retenir. Il y a des choses plus importantes, mais ça, c'est l'erreur la plus commune. Parce que Facebook a conçu, à partir de technologies existantes, les bases de cette crypto-monnaie, mais ils l'ont vraiment complètement séparé. Ils ont créé une entité différente. La manière dont j'illustre la chose, c'est que c'est la suivante. Imaginez quelqu'un qui ait l'idée d'un outil pour faire du feu ou qui ait l'idée de concevoir une roue. Eh bien, cette personne ou ce groupe va concevoir cet outil et ensuite le livrer au monde. Et cet outil, que ça soit le feu ou la roue, peut être utilisé pour plein de choses, mais à partir du moment où il n'y a pas de copyright ou ce genre de choses, l'outil n'appartient plus à l'entité qu'il a créée. Eh bien, à peu de choses près, on est un petit peu dans ce type de configuration avec un montage assez intelligent, assez ingénieux de la part de Facebook qui a conçu cette crypto-monnaie pour être la crypto-monnaie qui a les plus grandes chances de s'imposer, donc d'amener les changements intéressants que pourrait amener la crypto-monnaie, une crypto-monnaie qui soit beaucoup utilisée dans le monde, mais elle ne leur appartient plus vraiment, puisqu'ils ont prévu, alors il faudra que tout se passe comme ils l'ont prévu, bien sûr, mais à ce stade, ils ont décidé de créer la Libra Association, l'association Libra, qui inclut de nombreux membres. Ils sont 28 aujourd'hui, ils seront peut-être plus nombreux au moment, à la fin de l'année, quand la crypto-monnaie sera transférée à la gestion de l'association Libra. Et Facebook est un membre de cette association, ils n'ont pas plus de votes que les autres. Et il y en a 28, s'il y en a une centaine, et ben ils auront 1% des votes pour la gestion de cette crypto-monnaie, mais pas plus. Donc ça, c'est très important à retenir. Ils livrent ce design en mode complètement open source. La Libra blockchain est open source, sous licence Apache 2.0. Et elle a des caractéristiques intéressantes. Elle est conçue pour être très stable, c'est-à-dire qu'elle est adossée à des monnaies existantes et à d'autres valeurs financières. Alors, elle est adossée à quatre monnaies existantes, le dollar, l'euro, le yen et une quatrième, c'est peut-être la livre. Et donc, ils ont un portefeuille de monnaie et d'autres valeurs qui font que la monnaie est stabilisée. Ils veulent éviter autant que possible la spéculation sur cette monnaie. Ce n'est pas du tout une monnaie spéculative. Un Libra, quand on l'achète, vaudra plus ou moins à peu près autant que quand on le vendra. D'ailleurs, l'argent qui sert à acheter les Libras est conservé. Et le Libra est créé au moment de cet achat et puis détruit quand le Libra est remis à l'institut qui l'a émis. Il est détruit et l'argent est ressorti. Donc, il y a vraiment deux mécanismes pour éviter la spéculation. Ils veulent un maximum de stabilité. Il y a des frais de transaction qui sont très faibles, des transferts qui sont aussi rapides que possible dans ce contexte, ou en tout cas assez rapides. Et donc, ça, c'est le système, en gros, hein, en gros résumé, qu'a conçu Facebook. Et encore une fois, j'insiste, il livre ce système à la communauté qui est constituée d'acteurs qui, bien sûr, ont besoin d'avoir une certaine somme. Il y a 10 millions pour faire partie de l'association à mettre dans le pot commun, on va dire. Et puis, il faut avoir des capacités de calcul qui ne sont pas incroyables, mais qui sont existantes. Et n'importe qui peut les rejoindre. Il ne serait pas... Alors, il y a une image qui est assez négative de Facebook. Donc, il n'est pas impossible que certains soient refroidis. Mais il ne serait pas impossible que d'autres acteurs, Google, Apple, peut-être même des États, se joignent à cette association. En tout cas, elle est ouverte. À côté de ça, il y a Calibra. Alors, qu'est-ce que c'est Calibra ? Calibra est une société qui a été créée par Facebook, qui est une société qui appartient à Facebook et qui va gérer les opérations que va faire Facebook avec sa crypto-monnaie Libra, avec cette crypto-monnaie Libra. Alors, ils vont commencer avec un portefeuille. Il y a plein de caractéristiques, mais par exemple, la Libra ne sera pas anonyme, il y a des protections contre le vol, etc. Mais Calibra, c'est juste une implémentation de Libra et l'implémentation dont, qu'utilisera Facebook. On peut tout à fait imaginer qu'à terme, Facebook l'intègre dans ses applications, Facebook elle-même, WhatsApp ou d'autres même, pour faciliter les transactions dans ces contextes. Mais Calibra est différent de Libra, Facebook est différent de Libra. Libra est vraiment un truc qu'ils ont créé et livré au monde avec une très petite influence sur son devenir, en tout cas quand la livraison sera terminée, on va dire. Voilà pour mon petit résumé. Je vais me tourner vers Ouriel pour la première question déjà. Est-ce que j'ai dit des grosses bêtises dans mon résumé ou pas ?
Alors bravo, c'est très précis ce que tu as dit, plus que relativement. Je suis agréablement surpris parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses imprécises qui ont été écrites, qui ont été répétées dans les médias sur ce projet. Et je pense que tu as souligné tous les points fondamentaux. On peut rentrer dans le détail maintenant. Mais bravo, c'est une bonne
présentation. Super, merci. J'ai le sceau d'approbation d'Ouriel Oyon, ça me fait plaisir. j'imagine que, au-delà de la description, qu'est-ce que tu penses de cette implémentation ? Est-ce qu'elle est intelligente ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ? Est-ce que tu y vois des failles auxquelles il faudrait faire attention ? D'un point de vue technique, mais sans forcément rentrer dans les détails, ton appréciation de spécialiste, c'est quoi sur l'aspect technique de Libra ? Est-ce que ça tient la route ?
Alors, avant de rentrer dans ces détails, premièrement, je pense qu'il faut souligner une chose. Je pense que c'est l'un des événements les plus importants dans l'industrie de la crypto depuis la naissance de Bitcoin et d'Ethereum. C'est un véritable tremblement de terre parce que c'est la première fois qu'une société majeure fait un pas aussi important dans cette industrie. C'est quelque chose que beaucoup avaient attendu. Enfin, on ne savait pas si ça allait venir de Facebook ou de quelqu'un d'autre, mais c'est la première fois qu'une société d'une telle importance investi de tels moyens, et l'investissement est pas mineur. C'est des centaines de personnes qui travaillent dans ce projet. On ne connaît pas exactement les montants investis, mais c'est probablement des centaines de millions de dollars à ce jour sur un projet directement connecté à l'industrie de la crypto-monnaie. Et donc, je pense qu'il faut déjà faire une pause sur l'importance de ce projet-là. C'est pas pour rien que tout le monde en parle. C'est pas pour rien que c'est la news du moment. C'est probablement un des points milestone dans l'industrie depuis la naissance de Bitcoin et d'Ethereum. Et il n'y a pas une société qui n'en parle pas. Et d'ailleurs, ça atterrit dans tous les médias. Même mes parents m'en parlent, donc c'est pour dire.
Mais j'irais même plus loin. Moi, j'ai l'impression que c'est une milestone potentiellement dans l'histoire d'Internet. C'est-à-dire qu'effectivement, on va peut-être, parce que Facebook a les moyens de faire ce genre de choses et le poids, on va peut-être assister à la première crypto-monnaie qui sera acceptée par l'industrie et par le monde au sens large. En tout cas, si celle-là n'y arrive pas, on peut se demander laquelle y arriverait, parce que celle-là est très bien positionnée. Et du coup, ça pourrait créer, pour parler avec des gros raccourcis, la première vraie monnaie d'Internet. On met Bitcoin, Ethereum de côté, qui ont eu leur importance, mais qui n'ont pas conquis le grand public, on va dire. Là, ça pourrait être la vraie première crypto, n'a pas vraiment d'importance, la vraie première monnaie d'Internet, en fait.
En fait, j'irais même encore plus loin, Patrick, si tu me permets, c'est plus qu'une révolution un milestone important dans l'industrie de l'Internet. Je pense que c'est un milestone important dans l'histoire de l'économie. C'est la première fois qu'une société privée avec un tel reach, hein, n'oublions pas, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs, entre 2 et 3 milliards d'utilisateurs, qui vient avec un projet. Alors après, on va expliquer comment il est orchestré, mais il n'est pas simplement porté par eux. Et qui apporte une nouvelle valeur économique qui permet de changer la manière dont des milliards de personnes peuvent transacter. Et donc ça dépasse les limites de la cryptocurrency, ça dépasse les limites de l'Internet, ça va avoir un impact sur l'économie. C'est pas pour rien que tous les politiques et toutes les banques sont un peu en mode panique et essayent de comprendre un peu ce qui se passe. Je pense qu'on a déjà un...
Non, mais tu as raison, on va en parler d'ailleurs, les conséquences et même pourquoi est-ce que Facebook fait ça ? Parce qu'on peut se poser la question, si Facebook s'en sépare totalement, pourquoi est-ce qu'ils ont mis autant d'argent là-dedans ? Et on va spéculer là-dessus. Fabrice, je me retourne vers toi également. Est-ce que tu partages cette analyse de l'importance ? Bon, vous êtes un petit peu des fans de crypto-monnaie donc, peut-être, et de blockchain, donc peut-être que vous voyez ça avec enthousiasme. Moi, j'ai un petit peu la même vision que vous, mais je suis aussi un fan de tech. Mais il n'empêche, est-ce que tu partages toi aussi, Fabrice, cette analyse et l'importance de ce moment ?
Oui, 100%, 100, je partage en fait 100% de ce qui vient d'être dit. Et l'impact sera sur les cryptos, sur le monde des cryptos, sur le monde de l'Internet et aussi, de mon point de vue, sur le secteur financier. Parce que quand on regarde la promesse, de, non pas des cryptos, mais de la technologie blockchain, le secteur financier est potentiellement le tout premier secteur qui peut être impacté. Pour ça, il faut qu'il y ait un accès facilité et globalisé à une blockchain et à une crypto sur cette blockchain-là. Et c'est vraiment la promesse de Facebook. En plus, ils l'ont fait avec beaucoup d'habileté, puisqu'ils ont réussi à combiner la promesse, une promesse, encore une fois, des blockchains et des cryptos, qui est que on va pouvoir avoir une possibilité d'échange de la valeur, d'échanger de la valeur sans être dépendant de gros tiers de confiance qui vont pouvoir dicter à peu près ce qu'ils veulent de ce côté-là. Et en même temps, la difficulté qu'on a avec que le secteur, en tout cas avec Bitcoin et Ethereum, c'est qu'effectivement, il n'y a personne vers qui se retourner, mais il n'y a vraiment personne. C'est-à-dire qu'on n'a pas de, on n'a aucun acteur, c'est complètement géré par les protocoles. Là, on a un ensemble d'acteurs qui, et ça c'est écrit dans les documents de Facebook, que Facebook a choisi comme étant diversifié dans des secteurs d'activité diversifiés, dans des zones géographiques diversifiées, qui vont pouvoir participer à la gouvernance de cette monnaie avec des possibilités de collusion qui sont très faibles, parce que leur intérêt commun, c'est que le projet et la crypto-monnaie fonctionnent et pas plus que ça. Et donc, je trouve qu'ils ont réussi à trouver un excellent milieu entre l'aspect complètement libre et décentralisé de la gouvernance et l'aspect habituel du secteur financier, où on a des gros acteurs, des gros tiers de confiance qui font à peu près, enfin, qui dirigent tout.
C'est vrai qu'on a un équilibre qui est assez bien trouvé entre tout ça. Alors certains disent, ah oui, mais c'est pas vraiment décentralisé, il y aurait des choses à dire là-dessus. Mais on a, par exemple, les membres de la Libra Association qui ont déjà été annoncés. On a, alors il n'y a pas de grandes banques, mais il y a des acteurs du monde des crypto-monnaies, il y a des sociétés de crédit comme Mastercard et Visa, il y a eBay, il y a PayPal, mais il y a même des organisations non gouvernementales. Il y a Kiva, par exemple, qui fait du micro-prêt dans les pays en voie de développement, que j'ai utilisé pendant longtemps pour faire justement des micro-prêts, qui est une société, une organisation qui est très connue. Il y a plein de sociétés.
A16Z, il y a Andreessen Horowitz, A16Z.
Oui, donc des investisseurs également. Bah, les investisseurs, je dirais, eux, à la limite, ils mettent 10 millions. C'est un petit peu l'argent qu'ils avaient dans la poche. C'est pour pas rater le train au cas où ça décolle. Mais oui, ils s'y intéressent aussi. Ce système qu'ils ont mis en place pour s'assurer qu'il n'y a pas de volatilité de la monnaie semble intelligemment fait et semble pouvoir fonctionner. Je redonne la parole à Ouriel et je te repose la question que je te posais tout à l'heure. Est-ce que tu vois un lièvre à lever quelque part dans leur organisation ? Est-ce qu'il y a des failles que toi tu verrais ? Ou est-ce que vraiment c'est bien ficelé leur truc ?
Alors, il y a plusieurs niveaux de commentaires. Je pense que le premier, c'est de saluer le fait qu'ils ont déjà mis l'intégralité du code en open source et donc qu'on peut effectivement voir qu'on n'a pas affaire à une black box et qu'on voit bien un petit peu comment fonctionne le système avec ses limites. On voit bien que Facebook, enfin plutôt Libra, puisque ce n'est pas Facebook, en tout cas ceux qui l'ont fondé, ont cette intention d'essayer de décentraliser au mieux le process. Alors, ce qui n'est pas décentralisé, c'est la naissance de la monnaie, contrairement au Bitcoin qui lui-même, a été généré ex nihilo de par tous ses membres. Là, il y a un point d'inception qui fait que la monnaie, elle existe au départ puisqu'elle est contribuée par une parité sur un basket, sur un panier de monnaie. Donc il y a cette différence majeure avec le Bitcoin, où la monnaie ne vient pas simplement du process de minage, de mining.
Je vais expliquer un petit peu plus pour les gens qui n'ont pas suivi. L'une des raisons pour laquelle le Bitcoin est aussi volatile, c'est qu'il est, l'une des raisons, c'est qu'il est rare. Et en fait, les Bitcoins sont minés par des formules mathématiques complexes, qui fait que un ordinateur peut trouver un Bitcoin en minant pendant plusieurs heures, et on en trouve à un rythme qui change en fonction de l'existence du nombre de Bitcoins. Donc il y a un jeu avec l'offre, on va dire, plus qu'avec la demande, mais il y a un jeu mathématique avec l'offre des bitcoins. Ce n'est pas le cas du tout avec les Libras. Les Libras ont une existence qui est complètement associée à la monnaie qui a été utilisée pour les acheter. Donc, la valeur, comme voilà. Je le disais tout à l'heure, est doublement stabilisée, quoi.
Voilà. Et alors, une autre différence importante, c'est que dans les crypto-monnaies comme le Bitcoin, il n'y a pas de ce qu'on appelle un système sans permission, permissionless. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir avec son matériel, venir miner, contribuer à la création des Bitcoins et à la maintenance du système de sécurité. Alors que dans le système de Libra, on est dans un système permissif où il faut avoir été choisi, comme a été Uber, eBay et tous les partenaires que tu as mentionnés. Au passage, saluons aussi Iliad et Xavier Niel, hein, qui font partie du lot. Et il faut avoir été choisi par Facebook, en tout cas, dans cette étape. Et donc, l'objectif pour eux, c'est d'avoir 100 personnes, 100 membres d'ici le lancement pour pouvoir participer au fonctionnement du réseau. Donc, c'est un système qui est permissif. Donc, ça, c'est les deux systèmes, deux différences majeures par rapport au Bitcoin. Et certains voient ça comme une décentralisation capée, limitée, donc avec forcément des biais, puisqu'il peut y avoir des risques de collusion. S'il n'y a que 100 personnes, 100 personnes peuvent se mettre d'accord, ou un quorum de majorité peut se mettre d'accord pour arrêter le système ou empêcher des transactions.
Une autre différence, c'est que le mode, en fait, la technologie utilisée pour arriver à un consensus pour la validation des transactions, c'est pas proof of work, c'est pas ce système utilisé par Bitcoin et actuellement par Ethereum qui est très consommateur d'énergie, reproche que l'on fait régulièrement aux technologies blockchain, qui est très consommateur d'énergie, qui prend aussi un peu de temps pour pouvoir valider les transactions. On est, de par l'aspect justement, le fait que n'importe qui ne puisse pas participer à la validation, on est sur un mode hybride entre proof of authority et proof of stake, qui fait qu'on est beaucoup plus rapide, on ne consomme pas plus d'énergie que n'importe quelle application web dans un data center. Et aussi, on peut aller beaucoup plus vite. À titre d'information, d'après les white papers, les tests qui ont été réalisés pour l'instant par l'association permettent de faire par nœud 1000 transactions par seconde et attendre à avoir une transaction validée au bout de 10 secondes. Alors que Bitcoin, aujourd'hui, c'est 10 minutes pour bloc. Et si on attend quelques blocs, il faut souvent plusieurs heures pour être certain, complètement certain, que la transaction, elle va pas être enlevée de la blockchain.
Donc, on est au final, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est effectivement un système qui est très bien pensé, qui n'adhère pas à 100% au principe, je dirais, c'est vraiment sans aucun biais négatif, mais au principe anarchique du Bitcoin, c'est quelque chose qui n'est pas autant décentralisé, mais qui, on va dire, instaure un petit peu plus de confiance, que ce soit pour la question de la décentralisation, la question de la stabilité, de la volatilité de la monnaie, etc. À partir de là, une fois qu'on a établi, et on pourrait en dire beaucoup plus, hein, mais on va avancer.
Pour encore un petit point juste pour finir. Vas-y. Sur ce point, c'est que en fait aujourd'hui, effectivement, c'est pas complètement décentralisé, il y a ce nombre de personnes, mais la technologie, elle est prête en fait pour passer complètement en proof of stake. Et ce qui est écrit dans les documents de Facebook, c'est qu'il est envisagé à terme qu'on passe d'un mode qui est permissionné à un mode qui est permissionless. La raison pour laquelle ils veulent démarrer comme ça, c'est pour s'assurer que les acteurs aient confiance dans le système, parce que quand on démarre, en fait, forcément, on va démarrer avec un nombre de nœuds limité, et quand on va démarrer avec un nombre de nœuds limité, il faut avoir confiance dans ces nœuds-là, ou alors qu'il n'y ait pas beaucoup d'utilisateurs. Donc, l'idée, c'est de démarrer avec des acteurs dans lesquels les utilisateurs fassent confiance, de progressivement, donc là, ils veulent déjà aller jusqu'à 100, effectivement, au démarrage, et un terme qui n'est pas mentionné, de passer à un mode où n'importe qui pourrait, pour peu qu'il ait suffisamment de Libra bloqués sur un compte, participer au consensus. Mmh. Et la technologie est déjà prête pour ça.
J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une situation qui est comparable au niveau du matériel aux smartphones ou aux tablettes à l'époque où Apple s'est lancé dans la bataille. C'est-à-dire que les smartphones existaient déjà, les tablettes existaient déjà, mais quand l'iPhone ou l'iPad sont arrivés, c'était un petit peu la version aboutie de ces technologies qui existaient déjà dans le monde. Donc, bon, ce cette petite comparaison faite, il faut préciser qu'évidemment, le nom de Facebook inspire la méfiance dans le monde entier, et ce type d'initiative, avec raison, a provoqué des vagues dans les gouvernements et dans les institutions financières du monde entier. Et on a des convocations devant le Parlement américain, à la fois à la House et au Sénat, il va y avoir des auditions. En Europe, la France a pris les devants et il semble que l'Europe veuille en entendre parler un petit peu plus. On va réfléchir aux implications et à la manière dont est conçue cette crypto-monnaie. Je pense que c'est normal, que c'est naturel et qu'il faut pas se précipiter dans ce genre d'initiative qui pourrait avoir des conséquences importantes sur le monde. Je crois qu'il y a 10 ans, on se serait dit « Ouais, c'est bon, la technologie, ok, super. » Mais maintenant qu'on a vu ce que ça peut faire dans le domaine de l'information, je crois qu'il est normal qu'on prenne un tout petit peu de temps pour étudier la chose. Et on espère que... On espère que l'étude sera bien faite et que les choses, si elles peuvent avancer sans trop de risques, pourront avancer. Parce que si on se dit aussi « Ah ben non, il faut rien faire parce que les crypto-monnaies, non, surtout pas, ça pourrait poser des problèmes », c'est ce que je dis souvent. Oui, il y a il y a des problèmes qui sont posés par certaines choses, mais si on part du principe qu'il ne faut rien faire parce que ça pourrait poser des problèmes, à ce moment, on ne fait plus rien et le monde est figé. Donc ça, c'est à mon sens le plus gros problème. Tout ça pour dire que les États vont y jeter un coup d'œil. J'espère que les membres de la communauté des crypto-monnaies, enfin, je sais qu'ils sont déjà en train d'y jeter des coups d'œil, que les lièvres potentiels seront levés. Ça a l'air assez bien ficelé. Ça nous amène à la question, si effectivement Facebook se sépare de Libra et l'a simplement conçu, pourquoi est-ce qu'ils se sont jetés dans la bataille? Et puis peut-être même au-delà de Facebook, quel intérêt ça pourrait avoir? Mais quel est l'intérêt pour Facebook? Évidemment, ils ont besoin de l'utiliser. Moi, ce que je peux y voir, c'est que, comme je parlais d'outils tout à l'heure, le feu ou la roue, Facebook voit des outils dont ils vont avoir besoin pour évoluer à l'avenir. On a parlé de leur super zap, c'est-à-dire l'équivalent de WeChat en Chine, qui a commencé comme une application de chat, mais qui s'est transformée en super application qui fait beaucoup de commerce, mais plein d'autres choses. Et c'est la direction dans laquelle semble vouloir se diriger Zuckerberg avec Facebook. Donc ils ont bien sûr besoin d'une monnaie plus simple à utiliser pour faciliter les échanges à ce niveau-là. Il faut noter quand même que l'utilisation que fera Facebook de Libra, les problématiques que ça pourrait poser ne sont pas différentes des problématiques que pourrait poser n'importe quelle autre monnaie. Si Facebook se lançait à corps perdu dans le commerce et qu'ils utilisaient des euros ou des dollars, les problématiques qu'on pourrait avoir de Facebook va suivre nos achats et suivre nos habitudes et avoir encore plus de données sur nous, ça serait vrai, mais ça serait vrai avec Libra ou avec autre chose. Un des avantages assez clairs auxquels certains ne pensent pas quand on parle de crypto-monnaie et notamment de Libra, dont les frais de transaction seront très faibles, c'est la bancarisation, excusez-moi le barbarisme, mais la bancarisation des personnes dans le monde qui n'ont pas de compte en banque. On pense aux pays en voie de développement, on pense à l'Afrique notamment. Si on suit un petit peu l'Afrique, il est impossible de ne pas avoir entendu parler de M-Pesa notamment, qui est un système de paiement mobile en Afrique de l'Est, si je ne m'abuse. Et c'est les mobiles, en fait, ont permis à une grande partie des populations les plus défavorisées de s'équiper en moyens de paiement et du coup de développer économiquement des régions qui n'avaient pas d'espoir de se développer de cette manière. Le gros problème, c'est que les frais, c'est pour ça que j'y reviens souvent, les frais de transaction sont souvent très élevés par rapport au paiement. On parle de paiements qui sont assez faibles, de quelques centimes ou quelques euros, parfois moins. Et les frais de transaction seront a priori très très faibles avec Libra. Alors, zéro ou une fraction de Libra au niveau technique. Ensuite, les opérateurs pourront prendre un petit peu plus d'argent, mais ils seront très, très faibles. Et pour des opérations avec des sommes aussi basses, et peut-être que c'est ça qui intéresse Facebook aussi, elles seront rendues possibles. Là où avec des cartes bleues, on a des pourcentages qui sont tellement élevés que c'est pas forcément possible. D'ailleurs, je suis sûr que si vous allez parler à n'importe lequel de vos commerçants de quartier et que vous leur demandez est-ce que vous préférez être payé en liquide ou par carte bleue, ils vont vous dire bah, en liquide, pas forcément parce qu'ils peuvent faire passer ça sous le bureau et être un petit peu discret avec. Pas que ça, mais les cartes bleues prennent, je sais plus, 5, 3, enfin entre 1, 2, 3 et 5. Moi, par exemple, sur Patreon, j'ai 7% de frais de paiement sur tout ce que j'encaisse. Alors, si vous pouvez me dire, bah oui, on passe de 7 à 3 ou 2%, ça veut dire que immédiatement, du jour au lendemain, je gagne, moi, 5% de plus. Et alors, moi, ce n'est pas si important, mais tous les commerçants du monde, si on leur dit vous gagnez 5% de plus demain, tout de suite, simplement en utilisant des Libra, je pense qu'ils vont tous être séduits. Et c'est tout ça pour dire que les frais de transaction sont très élevés. Évidemment, ça nous impacte ici. Ça impacte également dans les pays qui ont des économies moins, on va dire, dynamiques qu'ici et dans les pays en voie de développement notamment. J'ai fait un petit peu un gloubi-boulga de tout ça. À quoi est-ce que, je vais demander à Fabrice peut-être, pourquoi est-ce que Facebook a conçu Libra ? Est-ce que tu as une idée de leur endgame, de leur idée finale ?
Alors, moi, je pense, ça c'est vraiment personnel, mais j'ai la conviction que Facebook et Zuckerberg en particulier, comme, en fait, quand il a conçu Facebook au départ, c'était pas pour faire le Facebook d'aujourd'hui, il avait pas ça, cette vision-là. Il avait vraiment une volonté de démocratiser la communication entre les personnes, d'abord les étudiants, etc. On va faire l'histoire, vous la connaissez. Je pense qu'à la base, il y a cette volonté aussi, et cette capacité en plus à le faire, à démocratiser l'échange de valeurs. C'est vrai que dans le site web de Libra, les premières populations, ce sont les populations non bancarisées qui vont pouvoir commencer à payer, à échanger de la valeur avec une confiance dans le système qui échange la valeur, qui est proche du système hors Libra, du système financier, des coûts beaucoup plus faibles et un impact, une possibilité d'échanger quasiment partout dans le monde. Je pense que c'est un des fondamentaux qui a fait, et c'est aussi une des promesses des cryptos d'ailleurs, enfin des blockchains plus précisément, et des cryptos sur blockchain, et je pense qu'ils ont vu qu'ils avaient la capacité de le faire rapidement. C'est donc probablement le point de départ. Évidemment que tout de suite et assez rapidement, on voit l'intérêt pour quelqu'un comme Facebook qui aura complètement rendu une commodité l'accès au compte finalement. Parce qu'il y a deux populations il y a deux types de populations pour moi qui n'ont pas de compte. C'est effectivement les pays émergents. Et il y a aussi les jeunes qui n'ont pas encore de compte. Et tous ces jeunes-là, ils sont très présents sur les réseaux sociaux, moins sur Facebook, mais ils restent très présents sur Instagram, sur WhatsApp. Ça les emmerde d'aller à la banque. Ils ne veulent pas aller à la banque avant d'être obligés. Donc, pourquoi ? Pour acheter la maison, pour avoir un prêt. Mais avant, en fait, s'ils pouvaient faire toutes leurs transactions financières sans aller voir un banquier, je pense que beaucoup le feraient. Et dans les deux catégories de population qui peuvent assez vite basculer pour faire la plus grande partie possible de leur échange en Libra, il y a les populations non bancarisées, ils ont accès à Facebook, et les jeunes, les tout jeunes, en fait, qui vont pouvoir éventuellement acheter dans un commerce. La question que je me pose et qui va être importante, c'est on a Visa et Mastercard dans le consortium. Est-ce que tout de suite, très rapidement, ils vont proposer des cartes bancaires qui permettent de payer en Libra ? Quelles sont les étapes et est-ce qu'ils vont le faire tout de suite ? Ça sera aussi un des éléments qui va changer un peu la donne.
Il faut quand même, j'imagine, là on est un petit peu dans l'expectative, mais les opérations financières vont être régulées, en tout cas dans nos pays occidentaux, vont être régulées plus ou moins de la même manière que celle des banques, parce que de fait, certains de ces opérateurs de Libra vont se retrouver à jouer le rôle de banque. Peut-être que ça sera des banques nouvelle génération, des banques vraiment Internet décentralisées, comme on peut nous les promettre, qui feraient évoluer ce vieux monde, mais il y aura quand même des garde-fous, j'imagine. Je voulais préciser à ce stade, j'ai fait un sondage avec les Patriotes, j'ai demandé une question très simple: est-ce que Libra vous inquiète? t'inquiète. Et moi, je m'attendais à recevoir des réponses quand même assez négatives, enfin, ou plutôt oui, assez positives, oui, Libra nous inquiète. Et en fait, on a eu moins d'un tiers des personnes qui ont répondu qui ont dit oui, Libra m'inquiète. Et l'immense majorité a dit non, non, je ne suis pas inquiet, ce qui m'a surpris. Peut-être que les gens qui s'intéressent un petit peu à la tech et qui sont patriotes savent comprendre un petit peu mieux ce qui se passe derrière tout ça. Et je pense que d'une manière générale, il ne faut pas forcément être super inquiet de Libra, pas plus de Libra que d'autres choses. Mais quand même, Uriel, c'est un groupe de sociétés qui sont à la tête d'une association qui va gérer une monnaie qui pourrait devenir la monnaie de l'Internet et peut-être la monnaie universelle du monde. Il y a Facebook derrière, dont on sait qu'ils ont quand même fait, si on veut leur donner le bénéfice du doute, des erreurs assez substantielles avec l'information et nos données.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il y a quand même, même si dans l'ensemble Libra ne nous inquiète pas, il y a quand même des raisons d'être vigilant, non ? Je te pose la question, Uriel, mais mêlé avec à quoi est-ce que ça va servir à Facebook ? Mais ce n'est pas complètement tout blanc, cette histoire non plus.
Clairement, Facebook démarre avec un énorme handicap et un extrêmement mauvais timing. Beaucoup de scandales liés et qu'on découvre tous les jours, des nouveaux, avec ce qui s'est passé sur nos informations. Donc on dit, qu'est-ce qui peut se passer demain avec notre argent si décidément c'est eux qui vont aussi gérer notre argent. Sauf que, et tu l'as précisé dès le départ, c'est très important de se rappeler que c'est un projet qui est démarré par Facebook, mais qui n'appartient pas à Facebook. Et donc, ce qu'il faut essayer, c'est de découpler, de décorréler la nature, la vie du projet de celui qui l'initie, d'une part. Par ailleurs, il y a une autre société qui s'appelle Calibra, qui, elle, sera un porte-monnaie, on peut dire une banque quelque part, qui va être opérée, elle, par Libra, filiale à 100% de Facebook. Donc là, il faudra voir comment cette société opère, quel type de données sont utilisées, comment elles sont données, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Calibra va être clairement régulé, probablement très fortement régulé, comme le sont les banques. On sait déjà que pour avoir un compte sur Calibra, il faudra s'identifier avec une pièce d'identité gouvernementale qui sera probablement screenée. Il y aura probablement des contrôles anti-fraude, il y aura probablement des audits, il y aura probablement de la sécurité, de la compliance dans tous les sens. Des audits réguliers faits à tous les niveaux, y compris fédéral, et dans tous les États où ils seront présents. Donc, je ne pense pas qu'ils vont avoir liberté d'opérer dans ce domaine-là, comme ça l'a été le cas dans le domaine de l'information. Quant à l'association, elle va être décentralisée, même si elle n'est pas absolument décentralisée. Donc, elle n'est pas détenue et opérée à 100% par Facebook, loin de là. Et donc, le risque, il est beaucoup moindre. Quant aux motivations de Facebook, je pense qu'il est animé par deux sujets. Le premier, c'est une mission qui est, je pense, est à la fois noble et importante. C'est lui d'effectivement fournir un système de financier inclusif à tous ceux qui n'en ont pas la possibilité. On a parlé des gens qui ne sont pas bancarisés, mais il ne faut pas oublier aussi que même aux États-Unis, il y a presque 20% des gens qui n'ont pas accès à un compte bancaire pour des raisons de credit score, de score de crédit, pour des raisons d'âge aussi, on a parlé des mineurs. Et donc, il y a un enjeu aussi local pour Facebook.
Oui, mais est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'ils ne seraient pas soumis aux mêmes règles ? Les gens, on parle des jeunes, c'est la deuxième fois. On ne va pas donner des Libras à un enfant de 13 ans si c'est équivalent à un compte en banque. Donc,
évidemment. Pardon, je t'ai coupé.
Vas-y, Auriel, vas-y.
Il y aura des contraintes, il y aura des limites. Je pense que les comptes seront limités par un certain type de dépôt. Mais on donne bien aujourd'hui du cash aux enfants. Il n'y a pas de loi qui empêche de donner du cash aux enfants. Et on peut très bien imaginer un système où le compte sera capé. On ne sait pas encore tous les détails, mais peut-être qu'à un certain âge, jusqu'à un certain âge, on aura le droit d'avoir un compte sur un montant délimité. Ce que je voulais dire sur les motivations de Facebook, c'est une motivation économique. C'est-à-dire qu'évidemment, ils font pas ça de manière désintéressée. Il y a deux niveaux. Le premier, il semble assez évident que Facebook est absolument dominateur sur les réseaux sociaux et l'information. Et leur marge de progrès pour aller beaucoup plus loin est, on peut dire, quelque part limitée. Ils ont déjà pratiquement tous les gens qui ont de l'Internet. C'est difficile pour eux d'imaginer un facteur de x10. Donc, quand on a déjà l'information, qu'est-ce qui reste ? Ben, il reste la monnaie. Il reste l'information monétaire, j'allais dire. Un secteur dans lequel ils ne sont pas présents. Ils ont déjà essayé dans le passé avec des intégrations de l'euro, du dollar. Ça n'a pas forcément marché. Mais là, ils font un pari osé en essayant d'être un opérateur de monnaie alors, en association avec d'autres. Et donc, je pense que c'est la première motivation, c'est d'aller sur un secteur qui est colossal, sur lequel ils n'ont pas de footprint aujourd'hui. Et le deuxième, c'est qu'il va y avoir quand même beaucoup d'argent qui va être fait par les opérateurs de cette monnaie, des commissions, des services périphériques. Calibra, qui sera a priori une banque, on ne sait pas encore quel est le modèle de cette banque, mais il y aura forcément des commissions à droite et à gauche. Et donc, on voit très bien que c'est un système qui va permettre à Facebook de diversifier son revenu, qui est dépendant aujourd'hui essentiellement de la publicité, et qui va demain être dépendant plus des transactions économiques. Mmh. Voilà pour les deux motivations sur lesquelles je vois Facebook se positionner.
Ouais, c'est un petit peu comme, pour prendre encore des comparaisons, c'est un petit peu comme quand Google a décidé de lancer Android pour amener Internet au reste du monde, et ils ont vraiment réussi. Android a amené Internet à toute une partie de la population du monde qui n'y avait pas du tout accès. Évidemment, ça a servi à Google énormément, puisqu'ils font leur argent quand les gens utilisent Internet. Donc ça peut, n'en déplaise aux cyniques, il peut y avoir des motivations qui sont bien sûr pécuniaires, mais qui à la fois, pour faire de l'argent, il faut faire un truc qui pourrait être positif également. Il n'empêche, j'ai vu cette préoccupation exprimée, et je pense qu'elle n'est pas illégitime, l'idée que l'association Libra sera gérée par, on va dire, en gros, des intérêts financiers et pas des intérêts étatiques. Généralement, une monnaie, derrière, il y a un État. Alors, il peut y avoir des États qui sont plus ou moins bien intentionnés, mais généralement, ce sont des États qui assurent le fonctionnement et la stabilité de la monnaie. Là, on va avoir des sociétés. Vous êtes tous les deux des entrepreneurs et des capitalistes invétérés. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite préoccupation à avoir là derrière cette idée, c'est presque de la philosophie, cette idée que c'est des sociétés qui vont gérer l'association Libra plutôt qu'un État ? Ou peut-être que des États pourraient rentrer également dans l'association, je ne sais pas si c'est envisageable ou même souhaitable, ou qu'il y ait une supervision d'État, ou je ne sais pas, est-ce que ça ne vous préoccupe pas du tout, Fabrice, peut-être ?
Non, en fait... Donc déjà, dans le secteur financier normal, il y a beaucoup de sociétés privées qui opèrent beaucoup de choses, qui sont régulées. Là encore, comme l'a dit Auriel, tous les services de type financier vont être régulés comme n'importe quel service financier. Et les règles de régulation, elles vont continuer à être édictées par les gouvernements, par les États, par la communauté européenne. Donc les contraintes, en fait, vont être les mêmes. La quasi-totalité des contraintes va être les mêmes que pour les États. Il y a effectivement une différence potentiellement, c'est sur la capacité à battre monnaie ou à créer de l'inflation. Au début, maintenant, en fait, et dans tout ce qui est écrit, c'est pas possible, puisque chaque Libra devait être backé par l'équivalent dans une des devises qui fait partie du panier de devises ou dans des titres qui sont classés AAA, hyper sécurisés. Donc la totalité des réserves en Libra sera backée par des réserves en valeur monétaire normale. Donc Libra a pas le c'est pas qu'ils n'ont pas le droit, c'est qu'ils prévoient pas de créer de monnaie. Ils n'ont pas intérêt, en tout cas à court terme. La question que je me pose en faisant un tout petit peu de finance fiction, c'est que
j'aime bien finance fiction. C'est un très bon terme.
Finance fiction, voilà. On a tous entendu parler de la fameuse crise économique qui doit venir dans les mois, années qui viennent, plus importante que celle de 2008, avec une caractéristique assez différente, c'est que pour résoudre les problèmes de 2008, les États ont pu injecter pas mal de monnaie. Et aujourd'hui, vu que les États sont aussi endettés que les privés, voire plus, ils ont pu manifestement, alors je ne suis pas hyper macroéconomiste, mais ils auraient pu la capacité à injecter suffisamment de monnaie pour résoudre la crise. Eh bien, potentiellement, un Libra qui aurait plusieurs milliards d'utilisateurs pourrait créer du Libra qui, à un moment donné, ne serait pas backé par de la monnaie s'il pense que c'est dans l'intérêt des utilisateurs, des clients, de continuer à pouvoir échanger de la valeur en n'étant pas impacté par par une crise macroéconomique ou économique pour laquelle ils y sont au départ pas grand-chose. Ça pourrait ne pas être interdit complètement non plus. Aujourd'hui, on crée le Bitcoin se crée par algorithme. Là, ça ne serait pas par algorithme. Il y aurait des impacts économiques, mais ça pourrait ne pas être interdit par les régulateurs, sauf à ce que la Libra soit vraiment classée comme une monnaie. Et je ne sais même pas si c'est possible, d'ailleurs, puisqu'une monnaie, aujourd'hui, doit être gérée par un État ou par...
Bon, c'est effectivement une question qui va rester en suspens pendant un moment et on va devoir voir ce qui se passe au niveau des études et des enquêtes que vont faire les États. Ouriel, tu nous dis que le son est mauvais de ton côté ? Je crois que tu ne nous entends pas.
Si, c'est bon en fait, j'ai changé de Wi-Fi et ça marche là. En revanche, j'ai loupé ce que vous avez dit avant.
Bon, on parlait du fait que finalement, les Libra seraient soumis aux mêmes contraintes que le reste du monde financier. Et donc, ça n'inquiète pas forcément Fabrice outre mesure. Ou peut-être dans le cas qu'il pourrait y avoir une inquiétude dans le cadre d'une crise financière majeure. Mais bon... Dans l'ensemble, on est plutôt confiant. Je vais peut-être te donner le mot de la fin, Ouriel, parce que ça fait presque trois quarts d'heure qu'on est sur Libra. Comme on le disait, c'est l'un des événements majeurs de ces dernières années, et peut-être même plus s'ils réussissent leur coup. Donc, je pense que ça les vaut. Mais on va quand même avancer, donc je te donne le mot de la fin, et puis on parlera d'autres choses. Ouriel, vas-y.
Moi, je pense que c'est un projet très intéressant, très excitant, qui va réveiller les États, réveiller les institutions financières. Et rien que pour ça, ça a de la valeur. Il y a beaucoup de choses qui doivent être changées dans le système financier. Donc, je pense que c'est un bon moteur pour pouvoir le faire. Maintenant, on est tous accrochés à ce qui va se décider au niveau du Sénat et du Parlement américain le 16 juillet prochain, quand l'audience aura lieu. Je pense qu'il y a un déficit de connaissances et de compréhension des gens qui veulent interroger aujourd'hui Facebook et peut-être d'autres acteurs. Donc espérons qu'ils auront les bonnes réponses. Aussi, il ne faudra pas louper Facebook au tournant et voir effectivement si les promesses qui sont annoncées, les déclarations d'intention qui sont écrites sur leur site web, sur le site web de Libra, seront effectivement celles qui seront délivrées dans la réalité. Donc pour l'instant, le projet n'est pas lancé, il a été juste annoncé, il y a du code ressource qui est disponible, etc. Mais il n'y a pas de service qui est disponible encore, on ne peut pas acheter des Libra, on ne peut pas encore en échanger. Donc il faudra voir un peu comment tout ça s'opère et je pense qu'on aura, on a 12 mois devant nous, hein, puisqu'ils ont annoncé que ce ne serait pas avant 2020, pour voir comment les choses vont s'articuler, quels autres acteurs vont s'associer, comment les règles vont être effectivement implémentées et comment les régulateurs vont embrasser, on va dire, entre guillemets, ce projet, car personnellement, moi, je pense qu'ils ont plus d'intérêt à l'embrasser qu'à essayer d'y résister. Je pense que c'est inévitable dans l'histoire de l'économie qu'une monnaie digitale intervienne et naisse. Et donc, c'est peut-être un des moyens d'y arriver. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais en tout cas, c'est très intéressant.
Ouais, c'est peut-être un moyen d'y arriver pour les régulateurs, au moins d'avoir une main sur le volant, puisque justement, ce n'est pas entièrement décentralisé. Il y a cette Libra Association à laquelle parler, plutôt que d'avoir un truc comme le Bitcoin où il n'y a personne à qui parler finalement. Donc,
Un autre point juste qui est pas souvent mentionné, Ouriel disait en introduction que probablement plusieurs centaines de millions d'euros ont déjà été investis dans le projet par Facebook, une bonne partie de ces ressources ont été investies pour de la recherche fondamentale. Quand on lit les papiers techniques, le white paper, bon, c'est assez abscon pour des gens qui ne sont pas experts en blockchain, mais quand on lit les papiers, on voit que beaucoup des meilleures pratiques d'aujourd'hui ont été intégrées et il y a vraiment des innovations qui sont également intégrées. Beaucoup de recherches fondamentales et une des cibles actuelles, c'est les développeurs. Et bon, on ne va pas expliquer pourquoi là, on pourra peut-être une autre fois où on va le lire dans les jours qui viennent. Les développeurs, il y a une attention très très forte envers les futurs développeurs de smart contracts ou de services sur cette blockchain-là qui est présente. Il faut aussi le mentionner.
Très bien. Merci à tous les deux. J'espère qu'on a peint un tableau assez complet de toute cette histoire. Et puis, de toute façon, affaire à suivre. On en reparlera dans les mois et peut-être les années à venir. Donc, on reviendra sur le sujet. Je vais faire une toute petite pause pour vous parler du Patreon du Rendez-vous Tech et vous dire que si vous appréciez l'émission, parlez à votre conjoint ou votre conjointe ou à vos parents ou à vos enfants et essayez de leur expliquer, je disais ça il y a quelques semaines, essayez de leur expliquer pourquoi vous ne soutenez pas l'émission. Et si vous ne réussissez pas, c'est mon dernier petit truc pour vous inciter à soutenir le Rendez-vous Tech, si vous ne réussissez pas à leur expliquer pourquoi vous ne voulez pas soutenir le Rendez-vous Tech, eh bien, peut-être dites-vous, peut-être qu'il faudrait que je le soutienne. Et vous faites comme Wutakon, qui a laissé un commentaire sur iTunes, il dit le filon tech, une petite perle dans cet océan sonore, les rendez-vous incontournables de la tech, du jeu vidéo et des sujets variés avec d'autres émissions à ne pas oublier, présentés avec passion et quasi dévotion, je ne sais pas si c'est de la dévotion, mais peut-être. Toute l'actualité, il passe prémâché et récurgité, mais avec le contexte en plus, quel que soit le sujet, chapeau, continue comme ça, Patrick. Patriote depuis quelques jours et content de l'avoir fait, ça prend vraiment 30 secondes en effet. Donc faites confiance à Wutakon et faites confiance à vous-même. Si vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi vous ne soutenez pas l'émission, eh bien ça prend que 30 secondes. Vous allez sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez soutenir l'émission. Donc merci à tous ceux qui choisissent de le faire. Bon, il nous reste une petite dizaine de minutes avant qu'on ne perde Ouriel, donc on va avancer un petit peu vite sur les sujets suivants. Parlons un instant du Raspberry Pi 4, qui est la nouvelle version de ce mini-ordinateur qui coûte quelques dizaines d'euros. Il y a un nouveau processeur, nouveau coprocesseur graphique qui peut soutenir deux moniteurs 4K, il y a de l'Internet gigabit, il y a le tout dernier Wi-Fi, enfin le AC, pas le AX, de l'USB 3.0, du Bluetooth 5.0, 1 à 4 gigas de RAM, tout ça pour 30 à 50 euros, on va dire, peut-être un tout petit peu plus. C'est un processeur ARM, donc ce n'est pas un processeur x86, donc ça ne va pas faire tourner Windows, encore qu'il y a un Windows sous ARM, j'oublie maintenant, il est en rumeur depuis un moment. Alors, la communauté des fans de Raspberry est super enthousiaste, mais dites-moi, ça sert à quoi un Raspberry Pi, ce petit ordinateur bon marché ? C'est celui qui veut peut se lancer. Hein.
Bah déjà, on parlait tout à l'heure de l'inclusion financière. Là, c'est l'inclusion informatique. C'est l'accès à un ordinateur pour tout le monde à ce prix-là. C'est une machine qui est très décente, qui permet de faire beaucoup de choses. Alors déjà, de l'informatique de base. Évidemment, ce n'est pas pour faire du traitement vidéo de haute qualité ou la programmation intensive de jeux vidéo. Mais pour tout ce qui est tâches quotidiennes, email, traitement de texte, etc., browsing sur Internet, ça fait déjà le job. Mais on peut l'utiliser pour plein de choses, hein, pour la gestion de la domotique, on peut l'utiliser pour connecter des objets, pour gérer différents types d'objets connectés.
C'est un outil de bidouillage, une sorte de Lego informatique qui peut servir à plein de choses de ce type-là, ouais.
Comme Media Exactement. Center aussi. Comme
Media Center aussi, oui.
Maintenant, avec la 4K qui vient, qui n'était pas présente avant.
Exactement. Donc, on peut transformer sa télé en télé intelligente, on peut transformer sa lampe en lampe intelligente. Et donc, ça, c'est quelque part, c'est une brique, hein, que je parlais de Lego, mais c'est un peu une brique du Lego qui rend intelligent un objet qui ne l'était pas nécessairement. Et un prix qui est quand même incroyable, parce que pour $35, quand on compare à un ordinateur qui se chiffre en centaines, voire en milliers de dollars, on obtient quelque chose qui est d'une capacité qui est extrêmement décente. Alors évidemment, c'est mu de design, il faut rajouter son propre clavier, il faut rajouter sa propre souris, il faut avoir son propre écran, mais c'est quand même extrêmement compétitif. Et le fait qu'ils aient atteint un tel niveau de performance à tel prix explique l'excitation de la communauté et des gens qui vont acheter.
Ouais, c'est un petit bidule super sympa et ça peut faire tourner alors Linux, hein, comme vous vous en doutez. Mais c'est vrai que moi, je ne me suis jamais intéressé à l'achat de Raspberry, mais je me demande, en fait, si j'en ai pas l'utilisation, aujourd'hui, je ne vais peut-être pas en acheter, on va dire. Mais par contre, l'idée de commencer à faire bidouiller mon fils quand il sera en âge 2, ça pourrait être assez sympa. Donc, à voir. Quelques petites news de tablettes et d'autres choses. Microsoft a visiblement en préparation, on en avait parlé, une nouvelle tablette Surface à double écran, mais elle serait avec très peu de stockage local et elle pourrait faire tourner les applications Android et intégrerait iCloud, donc en plus d'autres services de stockage en ligne, également iCloud et des applications Android. Et pendant ce temps-là, Google a confirmé qu'il se retirait du business des tablettes, donc Google disparaît, Microsoft redouble d'efforts. C'est une danse intéressante. Il semblerait que le Galaxy Note 10, qui sera bientôt présenté par Samsung, inclut deux modèles, ce qui n'est pas si étonnant dans le domaine des téléphones mobiles, mais un Galaxy Note, généralement, il n'y en avait qu'un seul. Et enfin, les bêtas publics des nouveaux OS d'Apple sont disponibles. Moi, j'ai installé iPadOS. Il plante un petit peu, mais il ne marche pas trop mal. On vous en parlera sûrement à un moment. Parmi ces quelques nouvelles, est-ce qu'il y en a une qui vous intéresse particulièrement? J'imagine que la Microsoft Surface à double écran qui fait tourner des applications Android, c'est suffisamment bizarre pour arracher des commentaires. Mais s'il y en a d'autres, allez-y.
En fait, c'est curieux ce move de Microsoft vers Android ou vers. En fait, c'est autant la Surface actuelle. Bon, moi, je suis utilisateur Mac, j'utilise pas beaucoup de Microsoft dans des VM, mais autant moi, j'aime beaucoup la Surface actuelle. C'est vraiment. C'est vraiment le super compromis entre la tablette et l'ordinateur. L'intérêt de faire tourner de l'Android, bon, alors c'est vrai qu'ils ne sont pas présents sur les OS mobiles, donc c'est, au moins ils arrivent à capter une partie de ce marché-là. Je suis curieux de voir comment ça va prendre, comment ça va se développer.
Et c'est plus, ça a l'air d'être un concurrent au Chromebook, finalement, qui ont beaucoup de succès.
Aussi, tout à fait.
Ouais. Quoi d'autre il y a une décision de la Cour suprême américaine qui était assez intéressante. Il y a eu un procès qui a été intenté contre une chaîne de télévision qui a, entre guillemets, censuré une émission, on va dire, pour simplifier, alors qu'elle était financée par le gouvernement. Et la question était, est-ce que ça contrevient au premier amendement? Est-ce que cette chaîne a donc contrevenu à la liberté de parole qui est garantie aux citoyens américains en retirant une émission, encore une fois je simplifie, de son antenne, alors qu'elle était financée par le gouvernement. La Cour suprême a dit non, la chaîne qui est financée par le gouvernement, le gouvernement il finance plein de choses, et si la chaîne n'a pas la fonction d'un gouvernement, il n'émet pas de monnaie, il ne met pas les gens en prison, etc., il n'est pas soumis au premier amendement et donc ça n'est pas de la censure. Ça, c'est intéressant en soi, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils sont allés au-delà de ce jugement pour dire « et d'ailleurs, dans le cas où il y a une société qui n'est pas financée par le gouvernement, ça n'est très certainement pas une contravention au premier amendement. » Donc, en gros, le sous-texte, c'était ne venez pas nous emmerder avec cette question-là. Si une société privée retire du contenu sans que vous estimez pouvoir dire, eh bien, ce n'est pas une question qui est relative au premier amendement. Évidemment, ça n'inclut pas une question qui serait illégale, comme par exemple retirer du contenu pour des questions raciales, etc. Mais donc, ce que ça veut dire, ce qui était dit par la Cour suprême, c'était Facebook, Twitter, tous ces réseaux sociaux et autres ont le droit de retirer le contenu, je fais un gros raccourci, mais le contenu des gens qui se plaignent qu'ils sont censurés sur Facebook et sur Twitter, généralement, c'est plutôt des gens que j'aime appeler très énervés. C'est souvent les extrêmes et souvent les extrêmes du côté de la droite. Et il y avait un grondement qui était en train de se faire sentir depuis des semaines et des mois de ces côtés-là pour dire « Ah, Twitter nous censure, Facebook nous censure ». Je vous en avais déjà parlé dans l'émission. Et bien là, la Cour suprême a dit « Nous emmerdez pas avec cette question, c'est pas une question de premier amendement. Ces sociétés ont le droit de supprimer ce qu'elles veulent ». Donc, bon, je vous laisse juger la chose, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Et les sénateurs du gouvernement américain ont présenté un projet de loi qui imposerait à Google et à d'autres sociétés qui ont des grosses quantités de données de rendre public tous les 3 mois des informations sur ces données, comme notamment, entre autres, la valeur de ces données, la valeur financière de ces données, ce qui est une grosse avancée parce que ça amènerait beaucoup de clarté et de transparence dans la gestion de ces sociétés. Et puis surtout, ça ferait se rendre compte aux gens qui utilisent ces services la valeur de leurs données. Il n'est pas certain que ça se fasse, c'est encore un projet de loi. Et puis, il y a la difficulté d'assigner une donnée à un élément, pardon, une valeur à un élément de données. C'est quelque chose qui est peut-être, qu'il faudra peut-être travailler un petit peu, mais ça ne me semble pas complètement impossible. Et enfin, Telegram a ajouté
surtout
la possibilité.
Juste pour un point, en fait, de ce côté-là, c'est surtout que la valeur, elle est le fait d'avoir beaucoup de données. Et en fait, avoir des données sur 1 million d'utilisateurs, ça a beaucoup plus de valeur que d'avoir 1 million de fois une donnée qu'on ne pourrait pas recouper. Donc, ce n'est pas évident parce que ma donnée toute seule, elle ne vaut pas grand-chose, mais ma donnée plus celle des 999 999 autres, elle vaut beaucoup.
Et je suis curieux de voir. Ce que tu veux dire, c'est qu'une donnée toute seule, elle vaut, on va dire, 1 centime, mais une donnée parmi un lot de 1 million, elle va valoir 10 centimes.
Exactement.
Mais si elle est toute seule, ouais, c'est intéressant, effectivement. Si vous voulez, Ouriel, je ne sais pas si tu dois nous quitter. Tu m'avais dit que tu avais juste 1 heure. Si tu dois nous quitter, je te libère, mais tu me dis.
Je dois partir dans pas très longtemps, mais s'il y a un dernier sujet sur lequel intervenir, avec plaisir.
D'accord, super. Donc, le dernier sujet que je voulais évoquer, allez, on va dire l'avant-dernier, c'était Telegram, cet outil assez bien chiffré, on va dire, de messages privés, qui a ajouté la capacité de créer des groupes par localisation et non plus simplement par invitation à partir de nom ou de numéro de téléphone. Là où c'est intéressant, c'est que Telegram est souvent utilisé pour communiquer. Alors, on peut imaginer que les gens peuvent l'utiliser dans les classes ou, je ne sais pas, dans les concerts ou ce genre de choses, mais aussi peut-être pour organiser des manifestations ou ce genre de choses. Alors, il faudra voir exactement comment ça marche, mais ça pourrait être utilisé pour empêcher la censure, une certaine forme de censure, ou peut-être que ça pourrait être utilisé de cette manière. C'est à voir, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et puis enfin, la grosse sortie de cette semaine en jeu vidéo, c'est Harry Potter Wizards Unite, qui est disponible sur iOS et Android. Alors, c'est le dernier jeu de Niantic qui avait développé Pokémon Go, dont vous vous souvenez certainement, qui avait fait les gros titres pendant quelques temps, il y a quelques années. Alors, ça démarre un petit peu moins fort que Pokémon Go, mais il n'empêche, il y a quand même pas mal de monde qui semble y jouer et qui semble l'apprécier. Donc, si vous voyez cet été des gens qui se baladent et qui jouent aux magiciens de Poudlard, c'est peut-être qu'ils sont en train de jouer avec leur app Harry Potter. Ça vous intéresse, vous, les apps en réalité augmentée? Vous allez vous mettre à jouer à Harry Potter? Ouriel, tu cours dans les rues de... Je ne sais pas si tu es à Tel Aviv, non pour jouer à Harry Potter?
Alors, moi, je ne suis pas un grand fan de Harry Potter, mais mes enfants, clairement, adorent tout ce qui est réalité augmentée. Ils sont sur Pokémon Go et je pense que c'est une énorme tendance qui va se développer. Quand on regarde ce qu'a annoncé Apple à la dernière WWDC, il y a un gros investissement qui est fait sur la réalité augmentée. Il va y avoir des applications assez dingues qui arrivent. Je ne sais pas si vous aviez vu la démonstration de Minecraft avec le nouveau jeu qui va arriver. Et c'est assez démentiel. Et donc, je pense qu'il y a toute une batterie de jeux qui vont arriver. Harry Potter, c'est certainement l'un d'entre eux, mais il va y en avoir encore beaucoup d'autres.
Mais d'ailleurs, Niantic a donné une interview assez intéressante dans laquelle ils expliquaient qu'ils sont en train de développer leur système de réalité augmentée pour le livrer à d'autres développeurs, le faire une licence avec d'autres développeurs, justement pour qu'ils puissent construire des jeux en réalité augmentée. Donc oui, je pense que ce n'est pas le dernier. Il y a d'ailleurs, comme tu disais, Minecraft et d'autres qui sont en train d'arriver. Moi, j'aurais dit, si je n'avais pas vu le succès de Pokémon Go, j'aurais dit, mais non, la réalité augmentée, c'est un gadget, ça n'a aucun intérêt, machin, truc. Et bon, clairement, Pokémon Go m'a prouvé le contraire. Donc, je vais rester quoi sur ce sujet?
Sur Pokémon Go, la partie réalité augmentée de Pokémon Go était quand même assez ténue. Surtout de la géolocalisation, mais la partie purement réalité augmentée, oui, on pouvait voir son Pokémon au milieu du champ, mais il y avait assez peu de mon point de vue, en tout cas de ce que j'en ai vu, j'ai joué un peu, mais pas énormément. C'était pas vraiment pour moi de la réalité augmentée Pokémon Go. C'est par contre une super utilisation de la géolocalisation et du fait de pouvoir placer des objets quelque part plus proche de géocaching que de réalité augmentée.
C'est vrai, mais il y a un attrait de la réalité augmentée qui le rend un petit peu physique, au moins au départ. Après, on le
fait peut-être. Mais... Tu as raison.
Bon, bah écoutez, je crois que ça nous fait une belle émission qui a tenu dans presque une heure, mais où on a couvert beaucoup de choses et surtout Libra, évidemment. J'aimerais vous remercier tous les deux d'avoir été présents. Avant de se quitter, évidemment, je vous propose de nous dire où on peut vous retrouver. Commençons par Ouriel. Où est-ce que tu es sur Internet et dis-nous-en un petit peu plus sur Zengo.
Ah bah, c'est pas difficile de me trouver parce que je suis un peu partout. Google Ouriel, O-U-R-I-E-L, et puis vous avez plein de liens sur Twitter, @OurielOyon, sur Facebook, /Ouriel. Zengo, c'est très facile, c'est zengo.com. Donc on a réussi à avoir le .com. Et donc, pour rappel, c'est un porte-monnaie de crypto. Pour l'instant, c'est Bitcoin, Ethereum et bientôt d'autres. Et on l'a lancé il n'y a pas très longtemps. C'est un porte-monnaie très simple à adopter. Je pense que tu as pu le voir peut-être toi-même.
Tout à fait, oui. Je vais être très honnête avec les auditeurs. T'as un petit peu fait le forcing pour que je l'installe. Moi, j'ai dit, j'ai pas de crypto-monnaie, machin. Et je me suis dit, ça va être relou. Il va falloir, machin, faire le portefeuille, les clés, les trucs, les machins. En fait, c'est effectivement, bon, j'avoue, c'est effectivement très simple. T'installes le truc et puis ça y est, tu as ton portefeuille qui est mis en place et il y a les protections pour le cas où tu le perds, etc. Enfin bref, toutes les raisons pour lesquelles j'avais pas fait de trucs de crypto-monnaie avant, ça a l'air d'être résolu avec Zengo, donc bien joué. Vous allez faire Libra, du coup, vous y penchez dessus?
Alors, on n'a pas d'annonce pour le moment, on est en train d'étudier effectivement leur code parce qu'il est assez atypique et il ne fonctionne pas exactement sur la même courbe elliptique, c'est un peu technique, mais que Bitcoin et Ethereum, donc on essaie de voir si c'est possible, mais on s'intéresse beaucoup et si c'est possible et qu'on voit que l'industrie s'y intéresse aussi et que tous les feux verts sont prêts, on fera quelque chose.
Ouais, j'imagine que ça va être difficile à éviter, effectivement. Fabrice, de ton côté, tu es aussi un petit peu spécialisé là-dedans, mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouriel, si tu dois y aller, vas-y, je sais que tu es très occupé.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci. Ciao, Ouriel. Merci de nous avoir donné un peu de ton temps et à la prochaine. Salut.
Moi, j'ai fixé ZO sur LinkedIn.
Redis parce que je t'ai un petit peu coupé. Répète.
Moi, c'est FXZO sur Twitter, principalement, où je partage les news, je partage les nouvelles et les articles sur LinkedIn. On retrouve facilement Fabrice Croiseau, c'est là où je partage le plus d'articles. Sinon, un petit peu de présence sur Facebook, mais très peu.
Donc, Fabrice Croiseau, FXZO, donc Fabrice Croiseau. Vous voyez, vous avez bien compris. Et effectivement, le lien vers ton compte Twitter, comme celui d'Ouriel, sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et bien sûr, vous le savez, si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur patreon.com/rdvtech. Patreon qui n'accepte pas encore les Libras, mais peut-être un jour pour me donner 5% de plus, par exemple. Je plaisantais tout à l'heure. Enfin non, je plaisantais pas, j'étais sérieux, mais... Je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. J'ai eu des discussions sur Twitter et sur Patreon, justement, avec le sondage que j'ai fait. Beaucoup d'avis très intéressants. Mais je crois qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte à quel point les frais bancaires et les frais de carte bleue, spécifiquement de carte de crédit, sont importants et gênants pour les commerçants qui, avec lesquels on travaille tous les jours. Et ne serait-ce que ça, la modernisation du système bancaire, si elle peut permettre de réduire ses frais, vous vous rendez compte, 7% rien que pour transférer de l'argent, c'est... alors 7%, c'est ce qui se passe sur Patreon. Je crois que c'est moins sur les terminaux carte bleue, machin.
Ça dépend, en fait. C'est un peu moins, mais ça dépend vraiment. Si tu vis avec une carte d'un pays du Nord et pour payer en France, ça va être, le commerçant va payer très cher. Et c'est vrai que si on regarde les quelques articles que j'ai déjà écrits sur Libra, pour moi, les plus gros gagnants d'un point de vue financier, ce sont les commerçants.
Mmh. Ouais,
ils vont payer quelques centimes.
C'est un aspect vraiment qui, je crois, est très comment dire, négligé ou méconnu des gens qui parlent de tous ces sujets. Mais bon, enfin, jusqu'à ce qu'on puisse payer en Libra dans notre café du coin, je crois qu'il y a quelques étapes à franchir. On n'y est pas encore. Mais bon, bref, en Libra ou en dollars, vous pouvez payer. Non, en dollars, vous pouvez payer sur patreon.com/rdvtech. Ça prend 30 secondes et c'est un super moyen pour soutenir l'émission. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil si vous ne savez pas pourquoi vous ne la soutenez pas déjà. En tout cas, on vous remercie tous de nous avoir écoutés et on vous fait de grosses bises. On vous donne rendez-vous dans une toute petite semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.